Le 13-14, Marion Lourd.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce 13-14 à la une aujourd'hui. Le rebond après la chute, l'INSEE évalue à 7% la croissance de l'économie française l'an dernier, de quoi effacer la crise sanitaire, dit le ministre de l'économie. Pas tout à fait selon l'INSEE, on décryptera en tout cas les ressorts de cette reprise spectaculaire et ses conséquences possibles avec le patron de l'Institut Rexecode. En attendant, l'épidémie n'est toujours pas finie, le taux d'incidence Covid flambe chez nous sans submerger les services de réanimation. Mais un chiffre inquiète aujourd'hui, Véronique Julia, les contaminations qui reprennent chez les personnes âgées dans les EHPAD.
Oui, c'est à surveiller de près. L'incidence a augmenté la semaine dernière de 30% chez les plus de 80 ans et les EHPAD accompagnent le mouvement dans les mêmes proportions.
Le point complet avec vous dans quelques minutes. Dans le journal, encore entretien sous tension entre les présidents Poutine et Macron au sujet de la crise ukrainienne. La famille Le Pen se déchire à nouveau. Cette fois, c'est Marion Maréchal Le Pen qui ne soutiendra pas sa tante Marine Le Pen à la présidentielle. Violent et brutal, dit la candidate RN, vous l'entendrez. La politique à l'échelon local, on en parle à 13h30. Deux maires invités pour nous raconter leur quotidien entre la crise sanitaire et la course au parrainage des candidats à la présidentielle. Quelle relation avez-vous avec votre propre mère? Qu'attendez-vous d'elle ou de lui? Vos questions, vos témoignages, 01 45 24 7000. En sport, à une semaine de l'ouverture des JO, la Chine fait la chasse aux dissidents. Nouvelle méthode, les tuer socialement en leur coupant l'accès à l'appli WeChat. On verra ça. Le russe Medvedev se qualifie pour la finale de l'Open d'Australie. Il y retrouvera l'espagnol Nadal, un revenant. Dans la deuxième partie du 13-14 aussi, on esquissera quelques pas de danse. Balance ton quoi au programme de C'est une chanson. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
C'est un rebond spectaculaire, inédit depuis 52 ans. La croissance française semble mieux que remise de l'épidémie de Covid. Elle repart plus vite encore que prévu par la Banque de France. 7% de richesses supplémentaires produites l'an dernier. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'en félicite.
D'abord, c'est un rebond spectaculaire de l'économie française. Ça efface la crise économique. Ça montre aussi la mobilisation de tous les salariés, des ouvriers, des chefs d'entreprise, des patrons de petites entreprises, des commerçants, des indépendants, de tous ces Françaises et ces Français qui se sont retroussés les manches pour arriver à ce chiffre, 7%, c'est spectaculaire, ce qui veut dire derrière des emplois, des usines, des entreprises. Et puis, ça prouve aussi que la politique économique du gouvernement est efficace.
Mais est-ce que ça veut dire, lorsque vous dites ça efface la crise économique, que l'économie française a retrouvé le PIB qu'elle avait avant la crise du Covid, c'est-à-dire fin 2019 ?
Elle a même, au quatrième trimestre, dépassé cette richesse qu'elle avait en 2019. Et elle a retrouvé son niveau d'avant-crise. On pensait l'avoir retrouvé à l'automne. En fait, on l'a retrouvé dès l'été. Donc, c'est dire à quel point l'économie française tourne à plein régime, à quel point elle est accélérée et redémarrée très vite parce qu'elle a une capacité de réaction qui est forte et parce que nous avons décaissé les fonds de la relance avec beaucoup de vitesse, beaucoup d'efficacité.
Bruno Le Maire sur France 2. Tout dépend ce qu'on met derrière le mot effacer. Le produit intérieur brut reste un peu en dessous de son niveau de 2019, prévient l'Institut de la Statistique. Mais l'INSEE affirme aussi que l'activité en fin d'année dépasse nettement son niveau d'avant-crise. Alors pour décrypter, mieux comprendre les conséquences de ces chiffres, avec nous dans ce journal, Denis Ferrand, directeur général de l'Institut Rexecode, centre privé de recherche en économie. Bonjour.
Bonjour.
Quels sont les ressorts de cette reprise qui est assez impressionnante, c'est vrai ?
Alors, cette reprise, plutôt que de parler de reprise, c'est vraiment un rebond. C'est un rebond qui vient compenser en grande partie la perte que l'on a subie en 2020. Il faut se rappeler le moins 8 de croissance que l'on a eu en 2020. Et ensuite, on fait plus 7. Donc, moins 8 plus 7, on voit qu'il en manque un petit peu. Et c'est d'ailleurs le sens de ce que dit l'INSEE. Mais en même temps, ce que dit Bruno Le Maire est juste. C'est-à-dire qu'on a retrouvé et même un peu dépassé le niveau d'activité que l'on avait à la toute fin de l'année, à la toute fin de l'année 2019. Donc oui, il ne faut pas bouder son plaisir. Le rebond a été fort, mais il a été fort parce que la chute initiale avait été aussi très marquée.
Et il s'appuie sur quoi ce rebond alors ?
Ce rebond, en fait, il s'appuie sur différents vecteurs. Tout d'abord, il y a eu un redémarrage de la consommation qui est quand même assez patent. Et notamment à partir de la deuxième partie de l'année, la réouverture des restaurants a permis de retrouver de l'activité dans les secteurs qui avaient été les plus handicapés. Et puis il y a aussi l'accélération très forte dans la délivrance du plan de relance. C'est-à-dire que la montée en puissance du plan de relance s'est faite beaucoup plus rapidement que ce qui était anticipé au début de l'année dernière. Mmh. Ce qui veut dire aussi, par l'ombre portée, qu'il y aura un peu moins d'impact du plan de relance sur les années à venir, 2022-2023, puisque celui-ci a été accéléré, a été délivré très rapidement.
Denis Ferrand, on voit qu'en Allemagne, par exemple, le PIB a chuté, lui, au quatrième trimestre de l'année dernière. Est-ce qu'il y a une spécificité française qui explique ça ?
Alors, il y a une spécificité française et allemande. D'une certaine manière, on est un peu protégé du fait de certaines de nos faiblesses. Parce que ce qui se passe en Allemagne, avec ce recul de moins 0,7% qui intervient toute fin d'année, est notamment une des conséquences de la très forte exposition de l'Allemagne à l'industrie manufacturière et en particulier à l'industrie automobile, qui pèse d'un poids 4 fois plus important en Allemagne que cela n'est le cas en France. Or, l'industrie automobile connaît d'énormes difficultés pour produire. On connaît les problèmes de semi-conducteurs, les problèmes d'approvisionnement d'une manière générale. Et comme ce secteur est moins développé en France qu'il ne l'est en Allemagne, eh bien, d'une certaine manière, on subit moins ce choc d'approvisionnement au niveau de l'ensemble de l'économie que cela n'est le cas pour l'Allemagne.
Alors, la tendance au rebond, malgré tout, elle est mondiale. On le voit, LVMH affiche, par exemple, une année record l'an dernier, mais Apple aussi annonce des ventes très importantes au quatrième trimestre, record également. La question de la répartition des richesses, elle va forcément se poser à un moment. C'est difficile de dire non à des revendications salariales quand on affiche des bénéfices énorme.
Surtout que ces revendications salariales, elles sont nourries aussi par le fait qu'il y a un phénomène tout à fait nouveau que l'on n'anticipait pas non plus forcément au début de l'année dernière, qui est la réapparition du choc de prix. La première des revendications de salaire, c'est le maintien du pouvoir d'achat et même un gain de ce pouvoir d'achat. Or, celui-ci est grignoté quand même sévèrement par un choc de prix qui est important et qui est d'ailleurs un petit peu plus faible en France qu'il ne l'est dans les autres pays de la zone euro, ce qui est un autre facteur de spécificité à la France. Et donc, ce faisant, l'accélération des salaires est probablement devant nous. À quel niveau elle se situera, personne n'est en mesure de le dire d'ores et déjà. Mais en tout cas, ce qui change dans le paysage et ce qui fait qu'on va avoir désormais une croissance beaucoup plus faible, le 7% que l'on a connu n'est pas un référentiel, mais ce qui fait qu'on aura une croissance un peu plus faible, c'est qu'il y a ce prélèvement qui désormais s'exerce et dont on ne sait pas dans quelle mesure il sera compensé intégralement par des augmentations de salaire.
Denis Ferrand de l'Institut Rexecode, merci de nous avoir répondu sur France Inter. Allez, une autre bonne nouvelle économique et sociale annoncée ce matin sur France Inter par le patron de Renault, Jean-Dominique Sénard, la marque Losange produira sa première voiture électrique Alpine dans l'usine historique du groupe à Dieppe, en Seine-Maritime. Façon d'assurer l'avenir du site qui emploie 400 personnes, affirme le président de Renault. Bruno Le Maire, encore lui, est sur place en ce moment. Allô, mais oui, c'est une femme au bout du fil, c'est officiel. Christelle Heidemann devient la deuxième patronne du CAC 40. Cette polytechnicienne a été nommée ce matin au conseil d'administration DG de l'opérateur Orange pour succéder le 4 avril prochain à Stéphane Richard, condamné dans l'affaire Tapis Crédit Lyonnais. Qu'est-ce qu'un chemin de désescalade ? C'est en tout cas ce qu'entendait proposer le président français de la République à son homologue russe, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Discuter ce matin de la crise ukrainienne, crainte d'invasion d'un côté, avec 100 000 soldats du Kremlin à la frontière, crainte de l'autre de voir l'Ukraine rentrer dans l'OTAN et quitter la zone d'influence de la Russie. Bonjour Bertrand Galichet.
Bonjour Marion.
Alors on ne sait pas encore précisément ce qui est ressorti de cet entretien, mais qu'est-ce qu'on peut en attendre ?
Alors, l'entretien vient de se terminer. On n'en connaît pas encore le contenu. Il a duré plus d'une heure. Ce que l'on sait, c'est que ce soir, Emmanuel Macron a prévu de s'entretenir avec le président ukrainien Zelensky. Ce matin, l'enjeu pour Emmanuel Macron était double. D'abord, essayer de savoir ce que Vladimir Poutine a en tête. Pour l'instant, personne, pas même les Américains qui parlent directement avec la Russie, ne le sait vraiment. Chaque contact avec Poutine est une possible source d'information, malgré le risque de manipulation par le Kremlin. Et puis pour l'Élysée, c'est une façon de revenir dans le jeu diplomatique. On a beaucoup reproché à l'Europe et à la France, vous savez, d'être marginalisés dans le dossier ukrainien. Il y a bien eu la réunion mercredi à Paris entre la France, la Russie, l'Ukraine et l'Allemagne. C'est ce qu'on appelle le format Normandie. Mais c'était seulement au niveau des conseillers. Dans cette situation très volatile autour de l'Ukraine, ce coup de fil entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine est pris en compte par les acteurs de la crise, qui scrute le moindre signe venant de Moscou. Ainsi, les États-Unis ont décalé à lundi leur demande de réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, qu'ils souhaitaient initialement tenir dès aujourd'hui, mais Washington l'a reporté au 31 janvier pour ne pas interférer avec l'entretien de ce matin entre les présidents français et russes. Ce sera la date limite, puisque lundi sera la dernière journée de la présidence du Conseil de sécurité par la Norvège, qui passera le relais le 1er février à la Russie, donc on imagine facilement espérant que la situation sera plus compliquée par la suite pour les États-Unis.
Bertrand Galichet pour France Inter, merci à vous. Et après s'être entretenu avec Vladimir Poutine, le président Macron doit parler ce soir avec le président ukrainien, ce soir donc à 19h. Sur le front de l'épidémie de Covid, des allègements de restrictions dans le monde malgré les contaminations massives liées notamment au variant Omicron. Le Maroc annonce qu'il rouvrira son espace aérien le 7 février prochain après 2 mois de fermeture. Hong Kong allège sa quarantaine obligatoire pour les voyageurs étrangers. Elle passera bientôt de 3 à 2 semaines. Fin du couvre-feu à New Delhi en Inde. Et pourtant, la pandémie a fait 5 600 000 morts, dont 130 000 en France, pays européen où le taux d'incidence fait encore partie des plus élevés. Bonjour Véronique Julia.
Bonjour.
Spécialiste santé de France Inter. Vous avez les derniers chiffres hebdomadaires de Santé publique France concernant la Covid chez nous, et le virus gagne du terrain.
Et oui, ça continue. Incidence en hausse de 20% en semaine 3. Elle atteint 3 736 cas pour 100 000 habitants. Ça progresse partout, à l'exception notable de l'Île-de-France, où ça décroît étonnamment de plus de 10%. On a atteint la semaine dernière une moyenne d'environ 360 000 cas par jour. Omicron représente 96% des séquences. Le nouveau variant BA.2, moins d'1%. Les hospitalisations sont à la hausse. Elles aussi, on dépasse les 30 000 hospitalisations conventionnelles, plus 14%. On est tout près des sommets atteints durant les premières vagues. Ça diminue en revanche un peu, moins 4% en soins critiques. Les décès sont en hausse, eux, de 7%.
Un élément surprenant et inquiétant aussi, le taux de contamination qui remonte chez les personnes âgées dans les EHPAD.
Oui, c'est la vraie surprise de la semaine. Les chiffres s'affolent un peu, en effet, chez les plus de 80 ans. L'incidence est en hausse de 29% chez les 80-89 ans et même de 31% chez les plus de 90 ans. C'est plus que dans les autres catégories d'âge. Alors, en termes d'incidence, on reste quand même très loin, c'est vrai, des sommets atteints chez les plus jeunes, les 11-14 ans par exemple, ou les trentenaires. Mais c'est évidemment une tendance qu'il faudra surveiller. On constate aussi que parallèlement, les contaminations augmentent dans les EHPAD. Le nombre de nouveaux cas remonte en flèche depuis 2 semaines. Il a même doublé, ce qui appelle Santé publique France aujourd'hui à réclamer une vigilance accrue dans ces établissements. À ce jour, seulement 86% des plus de 80 ans éligibles ont reçu leur dose de rappel. C'est évidemment perfectible.
Vous le disiez Véronique, les enfants sont particulièrement contaminés aussi par la maladie, leurs professeurs également. Conséquence, un nombre record de classes fermées, plus de 21 000 dans les écoles, collèges et lycées selon le ministère, soit près de 4% des classes. Covid et conséquences sur le système éducatif, le ministre reçoit en ce moment même les syndicats d'enseignants. Au cœur des discussions, un report éventuel des épreuves de spécialité du bac prévu mi-mars. Les organisations représentatives souhaitent les voir décaler, réponse de Jean-Michel Blanquer dans l'après-midi. Allez vérifier sur le terrain les révélations du livre Les Fossoyeurs concernant les mauvais traitements infligés aux personnes âgées dans les maisons de retraite Orpea. Repas et couches rationnées, hygiène négligée. L'agence régionale de santé Seattle. Inspection en Belgique en cours. Une descente aussi dans l'EHPAD du groupe Orpea à Neuilly-sur-Seine en région parisienne hier. Anne Orenstein, comment se passe en général ce genre de contrôle?
Eh bien, un contrôle, ça peut être inopiné ou prévu. Dans ce cas-là, évidemment, tout le personnel est briefé, le discours est répété, les familles interrogées sont prévenues à l'avance et le ménage est fait. Mais les inspecteurs peuvent aussi arriver par surprise s'ils sont saisis d'une plainte. Sauf que ces contrôles surprises sont très rares par manque de personnel. La défenseur des droits en dénombre seulement 3 à 50 par an selon les régions sur 7000 EHPAD. Les contrôles menés entre autres par des médecins sont faits à la fois par l'agence régionale de santé concernée mais aussi par des agents du département car les EHPAD font l'objet d'une double autorisation de l'ARS pour la partie soins et du conseil départemental pour la partie dépendance. En revanche, pour la partie hébergement, les repas, la chambre, le salon, là, seule la répression des fraudes peut agir. Il faut aussi ajouter un contrôle en continu sur les comptes. Cela se fait sur pièces, sur factures, livres de comptes, ce qui explique aussi que le système des marges arrières puisse passer inaperçu. Enfin, tous les 5 ans, les EHPAD doivent commander un audit par un organisme indépendant extérieur. Le rapport qui en résulte conditionne le renouvellement de l'autorisation des établissements, à condition qu'il soit lu par les ARS, car il reste la plupart du temps lettre morte.
Et on l'apprend à l'instant, le gouvernement va prendre des mesures pour renforcer les contrôles dans les EHPAD. Orpea conteste toujours les accusations du journaliste Victor Castanet. Elles sont, selon le groupe, mensongères, outrageuses et préjudiciables. La politique déchire parfois les familles. Illustration, et ce n'est pas la première fois, dans la famille Le Pen. Marion Maréchal, nièce de Marine Le Pen, confirme aujourd'hui qu'elle ne compte pas soutenir sa tante, candidate RN à la présidentielle en avril prochain. Coup dur pour Marine Le Pen, Élodie Forêt. D'autant que la trentenaire envisage peut-être de rallier un autre candidat, Éric Zemmour.
Dans la saga Le Pen, c'est une nouvelle fracture. Car jusque-là, même si Marion Maréchal, depuis 2017, se tenait éloignée de Marine Le Pen, et si on connaissait sa vision très critique de la politique menée par sa tante, à qui elle reproche notamment d'avoir reculé sur les questions sociétales, elle restait en revanche très prudente sur ses intentions. En novembre, elle indiquait qu'elle soutiendrait l'union derrière le candidat le mieux placé, une phrase à laquelle se raccrochait depuis Marine Le Pen, visiblement très émue ce matin sur CNews.
Je pense que si je vous disais que ça ne me touche pas, personne ne me croirait. Voilà, donc j'ai avec Marion une histoire particulière parce que je l'ai élevée avec ma sœur pendant les premières années de sa vie. Donc évidemment, c'est brutal, c'est violent, c'est difficile pour moi.
Une décision difficile qui le sera d'autant plus si Marion Maréchal rejoint officiellement Éric Zemmour. Politiquement, médiatiquement, ce serait un séisme, confie un cadre du RN. La petite fille de Jean-Marie Le Pen qui se donne désormais un mois pour prendre cette lourde décision, à la fois convaincue par la mue politique d'Éric Zemmour, mais méfiante à l'idée de rejoindre une structure partisane. Mon naturel, dit-elle, n'est pas de réciter des éléments de langage.
La politique, c'est aussi la course au parrainage, parfois compliquée, même pour les grands candidats. C'est un article à lire sur notre site franceinter.fr. Course au parrainage auprès des élus, mais aussi crise sanitaire. En ce moment, c'est le quotidien des maires, nos édiles, en vedette dans deux films sortis mercredi dernier au cinéma. À 13h30, on reçoit les maires de Saint-Michel-sur-Orge et Bourg-de-Péage, Sophie Rigaud et Nathalie Niaison. Vos questions 01 45 24 7000.
France Inter, le 13-14, Marion Lourd.
13h16 sur Inter, comme toutes les semaines, c'est l'heure de notre chronique Arrêt sur audience, le procès des attentats du 13 novembre, raconté de l'intérieur par nos envoyés spéciales. Cette semaine, c'est Charlotte Piré. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Depuis la cour d'assises spéciale de Paris, où le procès entre dans sa 19e semaine, on interroge en ce moment les accusés sur la genèse des faits. Les audiences ont repris ce mardi après une deuxième interruption pour Covid. Et ce n'est pas le seul obstacle, Charlotte, au bon déroulement du procès. Certains témoins refusent de venir à la barre.
Oui, ce n'est pas la première fois que ça se passe ni devant ce procès, ni devant une cour d'assises en général. Mais ici, cette semaine, on a vu coup sur coup quatre témoins refuser de venir s'expliquer devant cette cour d'assises spécialement composée en donnant des raisons et des certificats médicaux qu'on peut sans trop de difficulté qualifier de complaisance puisqu'ils courent jusqu'au 30 juin pour l'un, jusqu'au 30 mai pour l'autre et même pour un autre encore, un état de stress permanent qui ne permet pas, selon le témoin, ne lui permet pas de venir s'expliquer devant la barre. Et puis, il y a eu un dernier témoin qui a également décliné cette citation et qui a fait un peu bondir, notamment du côté de la défense, puisqu'il s'agit d'une magistrate professionnelle, une juge d'instruction belge, qui a signifié qu'elle voulait simplement réserver la primeur de ses propos à la justice belge et non pas à la justice française. Mais effectivement, tout cela a fait un peu mauvais effet ici à ce procès.
Et du côté des accusés, Charlotte, certains refusent aussi de parler, hein.
Oui, on a vu Oussama Krayem avant lui, et cette fois-ci, c'est l'accusé Mohamed Bakali, dont c'était l'interrogatoire cette semaine également, qui s'est levé avant même la première question pour expliquer qu'il voulait faire usage de son droit au silence. C'est un droit qui lui revient ici devant la cour d'assises, mais effectivement, c'est forcément un peu frustrant, parce que beaucoup avaient envie d'entendre ses explications sur les faits. Alors lui s'en explique en disant qu'il a déjà eu affaire à un premier procès d'assises ici en France, et effectivement, c'est le cas pour l'attentat du Thalys, pour lequel il a été condamné à 25 ans de réclusion. Dans le cadre de ce procès, il a expliqué s'être longuement expliqué sans que cela ne donne rien finalement, puisqu'il a quand même eu cette condamnation qu'il conteste. Et donc ici, il a simplement indiqué qu'il refuserait de répondre aux questions, et il est resté silencieux pendant toute la journée face à une litanie, une suite de questions de la part de la cour, des avocats généraux, des avocats qui se sont succédés sans aucune réponse de sa part.
Alors Charlotte, évidemment, en coulisses, tout ça crée un agacement général, hein.
Oui, forcément, parce que il y a la colère véritablement des parties civiles, des victimes qui vivent comme une nouvelle agression finalement, un acte de violence, de voir un accusé leur refuser jusqu'aux plus simples explications. Il y a la défense qui s'insurge notamment contre cette magistrate belge dont je vous parlais qui refuse de venir parce que pour eux, c'est un élément de défense dont on prive leurs clients que de ne pas avoir les témoins qui peuvent venir s'expliquer en direct à la barre. Il y a un peu ce sentiment généralement vraiment partagé ici depuis le début de cette semaine que ce procès peut-être s'est un peu enlisé, patine un peu, j'ai également entendu. Pourtant, on est au cœur des faits, hein, puisqu'on est dans les interrogatoires d'accusés, mais il y a une tonalité un peu de mécontentement en cette 19e semaine de procès.
Charlotte Piret depuis la cour d'assises spéciale au Palais de justice de Paris avec les moyens techniques de Frédéric Cairou. Merci à tous les deux. Avec le retard pris, le verdict n'interviendra pas avant le mois de juin. Une mère de 33 ans est en garde à vue en région parisienne, arrêtée ce matin par la police judiciaire de Versailles. Elle est soupçonnée d'avoir tué son fils de 10 ans. Le corps sans vie du petit garçon a été retrouvé hier caché dans une valise, dans une benne, à une centaine de mètres de la maison familiale de Ferrières-en-Brie, en Seine-et-Marne. La mère souffrirait de troubles psychiatriques. On tousse et on suffoque dans les Bouches-du-Rhône à Saint-Chamas. Ça fait un mois que cette ville subit les odeurs et fumées toxiques qui émanent d'un incendie de la déchetterie voisine, près de 30 000 mètres cubes de déchets qui se consument lentement sans qu'on sache vraiment comment éteindre le feu. Le noyer risquerait de polluer les nappes phréatiques et l'exploitant Concept Recyclage refuse d'évacuer les déchets par camion tant qu'ils brûlent encore. L'association France Nature Environnement porte plainte aujourd'hui pour mise en danger de la vie d'autrui. En attendant, les riverains s'inquiètent. Fabien Ledu.
Oui, ça fait un mois que Julien tente, comme il peut, d'empêcher les fumées de rentrer chez lui.
En tout cas, le feutré, regardez. Vous voyez le scotch, là, j'ai mis du scotch aux fenêtres, à la VMC.
Un mois que Hélène ne peut plus mettre le nez dehors.
On ne peut plus respirer. Ça sent le brûlé, le plastique, des choses qui ne sont pas respirables. Même les animaux sont impactés. Vomissements, diarrhée et autres.
Et un mois que ces fumées toxiques polluent la vie de Sabine.
Déjà, il y a une sensation en fait, de gêne au niveau de la gorge. On a l'impression d'avoir quelque chose à l'intérieur, du sable ou quelque chose qui gêne. On peut se poser des questions et on peut s'inquiéter un peu quand même.
Des animaux malades, des problèmes respiratoire, l'inquiétude grandit chez les habitants.
Il y en a qui sont malades, j'ai entendu dire que des personnes étaient malades. Ça fait un mois que ça dure. Les déchets sont toujours là, on ne voit pas d'avancée. Les pompiers jettent de l'eau, ils jettent de l'eau en continu, mais ça n'empêche pas d'avoir toujours des foyers avec ces fumées qui ressortent et on ne comprend pas où on va.
Les pompiers ne peuvent pas noyer ce feu sans risquer de polluer les sols. L'exploitant, lui, ne peut toujours pas évacuer les milliers de mètres cubes de déchets, comme l'explique Sylvie, une employée.
On est un peu dans une impasse à l'heure actuelle. Ça brûle. Si on transporte ça maintenant, on va polluer d'ici jusqu'à la décharge et on risque de mettre le feu dans la décharge.
Bref, le seul à pouvoir donner un peu d'air aux habitants aujourd'hui, c'est le Mistral.
En reportage France Bleu Provence, un dossier complet sera remis aujourd'hui au procureur de la République à Marseille. Des objets africains et précolombiens aux enchères, il y en a de temps en temps. Aujourd'hui, c'est à la maison Milon à Paris et cette vente pose question car le Mexique demande tout simplement son annulation. Le pays dénonce un commerce illégal de patrimoine historique. Les maisons de vente, elles, s'estiment en conformité avec la loi et refusent de céder. Récit avec Mathilde Dehimy.
L'ambassadrice du Mexique assure avoir lancé tous les recours auprès du gouvernement français et de l'UNESCO. Ces ventes aux enchères favorisent le pillage, dit-elle, et il y a des contrefaçons, selon un groupement d'experts mexicains, avance ce matin Blanca Jiménez Cisneros.
Ce sont des experts prestigieux et reconnus dans le monde académique international. Et eux, ils sont considérés que certaines pièces figurant sur les catalogues ne sont pas originelles, mais plutôt des fabrications récentes.
La maison Milon n'annulera pas sa vente, répond son président. Les statuettes et vases mayas sont comme tout objet daté et vérifié, et les ventes aux enchères évitent le marché noir, dit-il. Deux collectionneurs ont acquis ces statuettes légalement à Mexico dans les années 50, rapporte le président Alexandre Milon.
Ils ont été exportés absolument normalement. Comment vous expliquez ça aux différentes familles ? Qu'on pourrait un jour voir un État étranger venir leur prendre leurs biens. Et c'est du pur opportunisme électoraliste pour nous, parce qu'ils promettent de défendre des patrimoines, mais des patrimoines qui, en fait, rayonnent à travers les ventes publiques.
L'ambassadrice du Mexique répond que sortir des objets historiques du pays est interdit depuis 1827. Ces biens sont inaliénables et propriété de l'État, dit-elle.
Vente à 14h dans le 9e arrondissement parisien. À une semaine de l'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin, on a quelques éléments de casting concernant la cérémonie. Pas de représentants des États-Unis, on le savait. Ils boycottent au niveau diplomatique pour protester contre le traitement par Pékin de la minorité ouïghour. En revanche, dans les tribunes, il y aura notamment le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, pas vraiment réputés pour leur respect des droits de l'homme. Pendant ce temps, Pékin tente de faire taire les voix dissidentes. Le régime chinois s'attaque, lui, à Internet et à l'application WeChat qui permet tout en Chine, paiement, communication, rencontre. Des intellectuels et militants des droits de l'homme ont vu leur compte brutalement fermé, Élise Delève.
Au quotidien, WeChat sert à absolument tout. Quand vous allez au restaurant, vous payez via WeChat. Dans les magasins, c'est aussi avec WeChat. Les factures d'électricité, la réservation d'un taxi, le QR code pour accéder aux lieux publics, tout se trouve dans cette super app. Le pays tente de supprimer depuis quelques années l'argent liquide et avec la pandémie, le processus s'est accéléré. Bannir quelqu'un de WeChat, c'est le tuer socialement, car cette appli permet aussi de discuter avec sa famille, de téléphoner. La parole n'est évidemment pas libre, tous les messages sont surveillés et il arrive souvent qu'on soit écarté si on utilise certains mots comme Dalai Lama ou Ouïghour. Ces purges virtuelles sont courantes lors de grands rassemblements, mais l'ambiance festive et harmonieuse voulue par le régime à Pékin sera difficile à vendre. Avec le boycott diplomatique de plusieurs pays occidentaux, dont les États-Unis, et la crise des Ouïghours, l'image de la Chine du tout-puissant Xi Jinping est déjà bien entachée.
Ouverture des Jeux Olympiques de Pékin vendredi prochain. Le sport, côté terrain, en tennis. On connaît désormais l'affiche de la finale de l'Open d'Australie. Le russe Daniil Medvedev a éliminé ce matin le grec Stefanos Tsitsipas. Le deuxième mondial se hisse donc en phase finale où il rencontrera l'Espagnol Rafael Nadal. Bonjour Fabrice Abgral.
Bonjour.
Un Rafael Nadal aujourd'hui cinquième au classement mondial et qu'on n'attendait pas aussi loin, hein, vu sa forme actuelle.
Oui, c'est vrai. Voir Rafael Nadal en finale, c'est totalement inattendu. Il y a 6 mois, l'Espagnol mettait sa carrière entre parenthèses pour soigner une blessure au pied gauche. Il a traversé alors une période de doute. Il avait du mal à s'entraîner et il se demandait même s'il allait retrouver son meilleur niveau. Nadal a finalement repris la compétition le 3 janvier dernier sans aucun repère, mais depuis, il est invaincu, il a gagné d'entrée un tournoi de préparation à l'Open d'Australie. Et à Melbourne, il a remporté ses 6 premiers matchs, plus ou moins facilement, c'est vrai. Mais il est là, en pleine possession de ses moyens. Tout le monde est béat d'admiration. Nadal lui-même se surprend et autour de lui, personne ne comprend comment ce joueur peut afficher un tel niveau de jeu après 6 mois d'arrêt. Alors c'est vrai, il y a des hauts et des bas dans ses matchs, mais il est là et il s'en sort toujours. Nadal, à 35 ans, il est un exemple de résilience. Il est animé par l'amour du jeu et par le plaisir qu'il procure. Alors, il profite du moment présent sans se mettre de pression. Il dit simplement qu'il est heureux d'être sur le court, heureux de se sentir vivant, pour reprendre ses propres termes.
En direct pour France Inter, Fabrice Abgral. Et en cas de victoire contre Nadal, Medvedev deviendrait numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière. Et puis, il n'y a plus grand-chose qui pourrait nous arrêter. Ça, c'est ce que disait l'entraîneur des handballeurs français. Après leur victoire mercredi contre le Danemark, en demi-finale de l'Euro, les Bleus se frottent ce soir à la Suède. Coup d'envoi à 20h30 à Budapest, avec comme un parfum de revanche, puisque les Suédois avaient éliminé les Français du mondial de hand pas plus tard que l'an dernier. Le bleu ne sera pas, en tout cas, la couleur des prochaines heures, ni même vraiment de votre week-end. La météo dans un instant. Puis avec nos deux invités, parole de maire, M-A-I-R-E-S, en période de Covid et de course au parrainage. Alors que sortent sur les écrans cette semaine deux films qui mettent en vedette le rôle de nos élus locaux.
Entreprendre, c'est toujours une grande aventure. Mais trop souvent, entreprendre rime avec attendre. Attendre l'ouverture de votre compte pro, attendre qu'un conseiller prenne votre appel, attendre que vos virements soient effectués. Attendez, vous n'en avez pas assez d'attendre. Alors passez chez Conto, le compte qui facilite la vie des pros. Avec Conto, ouvrir un compte pro en ligne ne prend que 10 minutes. La gestion de vos notes de frais se fait en temps réel et vous profitez d'un service client ultra réactif 7 jours sur 7. Conto, le compte au service des pros.
France Inter aime...
Le Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul, du 1er au 8 février. Compétition, fiction et documentaire thématique. L'histoire en toile de fond. Hommage à Koji Fukada en sa présence. Journée du cinéma afghan, Iran, Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan. Regard sur les cinémas des routes de la soie. Le Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul, un événement France Inter.
Le temps de votre vendredi et de ce début de week-end.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Nuages au nord, soleil au sud-est.
Oui, alors du Poitou et du centre-Val de Loire vers la région parisienne, la Bourgogne, le Grand Est, le ciel reste souvent gris cet après-midi. Entre le Nord-Pas-de-Calais, la Normandie, les Pays de la Loire et les Charentes, là des nuages dominent, mais ça n'empêche pas quelques éclaircies de temps en temps. Sur le sud-ouest et entre l'Auvergne et le Lyonnais, là aussi les nuages bas sont encore présents. Ils se déchirent progressivement, des éclaircies reviennent. Et puis en montagne, sur le sud-est, c'est du soleil avec du vent fort en Méditerranée. donner jusqu'à 110 km à l'heure pour le Mistral. Les températures montent doucement. Alors 4 degrés à Metz et à Agen, 5 à Dijon et à Clermont-Ferrand, mais 9 degrés à Dieppe, à Nantes, à Biarritz, 10 à Limoges, 13 degrés à Marseille et 17 à Perpignan. Et puis pour demain, quelques gouttes au nord, parfois verglaçantes en arrivant sur le nord-est. Sur le sud-ouest, encore de la grisaille. Et en montagne et en Méditerranée, du soleil.
Merci Elodie Callec de Météo France. Il est bientôt 13h30 sur France Inter.
France Inter, le 13-14. Marion Loup.
La réhabilitation de la friche 44, on nous disait que c'était impossible. Le désendettement de la ville, sans un euro d'augmentation, on nous disait que c'était impossible. Eh bien, il faut croire que pour nous, l'impossible n'est qu'un appel au défi, à la volonté et à la débrouille. Sans doute, parce que nous savons pourquoi nous aimons cette ville, pourquoi nous nous battons encore et encore et pourquoi nous ne lâcherons rien jusqu'à la victoire.
Est-ce l'entrée en campagne présidentielle qui provoque cet intérêt soudain du cinéma pour la politique, comme vous l'entendez dans cet extrait du film Les Promesses que nous venons de diffuser? En tout cas, la politique, plus précisément la politique locale, se fait une place dans les salles obscures ces jours-ci. Il y a donc Les Promesses, film France Inter avec Isabelle Huppert et Reda Kateb, l'histoire d'une maire de Seine-Saint-Denis et de son directeur de cabinet qui se battent pour sauver la cité insalubre des Bernardins. Ici, la fiction s'attaque à la réalité. À l'inverse, quand la fiction s'invite dans le réel, autre film, un peu documentaire en salle depuis mercredi, ça s'appelle Municipal. Et c'est un acteur, Laurent Papeau, qui se présente vraiment comme maire de la ville de Revin dans les Ardennes, tout en promettant de ne jamais siéger. Deux façons de mettre en lumière le métier de maire, ses missions, ses aspirations, ses difficultés. Et pour en parler, deux édiles avec nous aujourd'hui. Sophie Rigaud, maire LR de Saint-Michel-sur-Orge en Essonne. Et Nathalie Niaison, maire d'hiver gauche de Bourg-Péage dans la Drôme. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Sophie Rigaud, je vais commencer par vous peut-être, parce que vous avez vu le film Les Promesses, vous avez même rencontré son réalisateur hier, je crois. C'est fidèle à la réalité?
Oui, c'est très fidèle. Alors moi, j'ai eu la chance de rencontrer Thomas Krutoff hier, mais je l'avais déjà rencontré lors d'une avant-première organisée par l'Association des maires d'Île-de-France dont je fais partie. J'ai trouvé que c'était un film extrêmement juste, extrêmement émouvant, qui pose en fait le courage politique. Et on a là pas un film qui concerne la conquête du pouvoir, donc déjà ça fait du bien. Et puis aussi, c'est un film qui parle de la banlieue, de nos quartiers populaires. Sans parler de jeunes et de police, on parle d'un sujet qu'on connaît bien, le logement. Donc moi, j'ai trouvé que c'était un très bon film, un moment agréable avec de bons acteurs et un bon réalisateur.
Qu'est-ce que vous y retrouvez de votre quotidien de maire ?
Clairement, les problématiques d'être appelé parce qu'il y a une fuite d'eau et qu'on a un problème de chauffage, c'est pas quelque chose qu'on rencontre, en tout cas à Saint-Michel, tous les jours, et peut-être pas toutes les semaines, mais c'est une situation que j'ai déjà rencontrée à plusieurs reprises. Ça montre la question de la confiance, l'abnégation dont on peut faire preuve, la déception, la détresse qu'on peut partager avec les habitants. Ça montre le combat qu'on vit au quotidien, nos vies qui sont dédiés à l'action publique, même si on le sait pas forcément, et ça rend aussi très réel ce qu'on fait et avec qui on le fait, notamment nos collaborateurs qui ont une partie, enfin qui passent une partie de leur temps, même très importante, avec nous. Donc je crois que ça permet aussi de donner à voir aux habitants ce que c'est qu'un notre quotidien, à la fois être les mains dans le cambouis et puis de voir aussi aller défendre des dossiers stratégiques auprès de l'État.
Nathalie Niaison, vous ne les avez pas vus, hein, ces films, je crois, mais comment est-ce que vous comprenez l'intérêt soudain du cinéma pour cet aspect local de la politique ?
Bah écoutez, je crois que le mandat de maire est le mandat préféré des Français, donc il était presque temps.
C'est ce que montrait une enquête du Cevipof encore l'an dernier. Hein.
Donc en fait, ça va certainement rencontrer l'aspiration des Français à pouvoir en savoir un petit peu plus sur notre mandat au quotidien. Et puis, comme le disait Madame Rigaud,
oui, la mère
Sophie
de Saint-Michel-sur-Orge,
voilà, pardon, que je ne connais pas, je suis désolée. Mais donc en fait, ça va permettre aussi aussi de voir comment les choses se passent, y compris dans les coulisses.
Et vous-même, vous avez été aussi députée, alors pourquoi est-ce que vous êtes revenue au mandat local de maire? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire à ce niveau et qu'on ne peut pas faire au niveau national?
Oui, moi c'est un véritable choix que j'ai fait de rester maire de Bourg-de-Péage dans la Drôme, parce que j'ai voté la loi sur le non-cumul des mandats, et ensuite je me suis représentée en 2014 aux élections municipales, et là j'ai voulu être en vérité, en transparence avec mes concitoyens, et je leur ai dit, voilà, si vous continuez à me faire confiance, je renoncerai à mon mandat de députée. Ce fut le choix du cœur, et parce que je trouve que le mandat de maire, c'est vraiment un mandat où l'on se sent utile, on a les mains dans le cambouis, mais on aime ça.
Alors dans le film municipal, je vais résumer pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais il y a l'acteur Laurent Papeau qui fait campagne, qui se présente et qui dit « à la fin je ne siégerai pas », il le dit en faisant sa campagne, « je laisserai les citoyens s'autogérer ». D'après vous, le maire, il reste quand même un rouage indispensable, on pourrait rentrer tout de suite dans l'autogestion comme le suggère ce film?
Ah, je crois que l'autogestion, c'est un vaste sujet. Je ne suis pas sûre que ce soit la clé de la réussite. Par contre, les maires que nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans la concertation, nous sommes dans le partage des décisions, avec comme ligne conductrice nos projets municipaux, ce sur quoi nous nous sommes fait élire. Mais après, on travaille en lien et vraiment en totale intelligence collective avec nos concitoyens, ça c'est absolument sûr.
Sophie Rigaud, la crise sanitaire qu'on ne voit pas hein, dans ces films, je le précise, elle a redonné un pouvoir aux maires, un pouvoir d'initiative notamment?
Elle a redonné un pouvoir. C'est vrai que les maires ont été en première ligne, hein, c'est-à-dire qu'il a fallu s'organiser pour garder les enfants des professions indispensables pour faire tourner la France, distribuer des masques, parfois les fabriquer, faire des courses pour les personnes âgées. Aujourd'hui encore, on est très préoccupé par les protocoles qui, quand même, sont un vrai casse-tête à gérer et qui impactent à la fois les enseignants, les parents, nos agents. Et puis, c'est pas que les écoles, hein, on parle pas des accueil de loisirs, des cantines, des gymnases, des salles de spectacle, les conservatoires, les salles municipales, j'en passe et des meilleurs. Je crois que on a montré qu'on était digne de confiance, qu'on était capable aussi de participer à cet effort national. Mais aujourd'hui, je pense que nous avons besoin de plus de marge de manœuvre. Et d'ailleurs, l'Association des maires d'Île-de-France prépare un manifeste sur le sujet de la décentralisation. À l'attention des candidats à la présidentielle avec des propositions concrètes, parce que on a besoin de rappeler que la commune c'est l'échelon de proximité, c'est le dernier rempart. Les habitants nous font confiance, nous connaissent, ils nous croisent tous les jours ou quasi dans les rues. On va acheter une baguette de pain, on va chercher nos enfants, on se promène de temps en temps, on fait des passages dans les rues pour voir comment ça se passe. On a besoin aussi de garantir notre autonomie financière. Je le dis parce que on peut pas toujours diriger nos villes, c'est même pas possible en se disant chaque année on sait pas trop ce qu'on va avoir. Y a un gros travail à faire dessus. Voilà, il faut que l'État, qui est très centralisateur aujourd'hui, tende la main au territoire, fasse confiance. On a l'habitude de gérer, on a l'habitude aussi d'expérimenter. Voilà, la commune, c'est l'échelon de proximité.
Nathalie Niaison, effectivement, plus de responsabilités avec la crise sanitaire, est-ce que les moyens suivent?
Vous savez, nous on a le sens de l'adaptation. En fait, j'ai pour habitude de dire que nous sommes les couteaux suisses de la République, quels que soient les moyens qu'on nous donne.
Enfin, il en faut quand même.
On nous alloue. Oui, mais de toute façon, nos concitoyens ne s'arrêtent pas à cette question. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que ça fonctionne. Alors, bien entendu, si on réclame les moyens dont on a besoin, et je suis moi-même dans une association qui s'appelle l'Association des Petites Villes de France, de manière à nous organiser dans notre positionnement vis-à-vis du gouvernement. Mais au local, au quotidien, on ne se pose pas ce genre de questions, on avance et on trouve des solutions.
Alors dans le film Les Promesses, on voit la lourdeur parfois des relations avec l'État, c'est pas toujours facile de parler à l'échelon supérieur, de le faire avancer sur certains dossiers. Est-ce que ça, vous le constatez, vous, dans votre quotidien?
Écoutez, je sais pas, moi j'essaye vraiment d'être dans un état d'esprit positif et oui, si j'étais seule dans mon coin, dans ma commune, ça n'avancerait pas. Mais on s'organise, on sait s'organiser à travers les associations au niveau national. C'est comme ça qu'on est plus fort. C'est quand on est ensemble et qu'on porte une parole qui irradie toute la France.
On retrouve Alain au Standard de France Inter. Bonjour Alain.
Bonjour.
Vous aviez une question pour nos deux mères.
Oui, voilà, je voulais vous poser une question, c'est par rapport au parrainage. La difficulté de choisir un candidat pour vous qui êtes mère, est-ce que par exemple vous pourriez faire voter votre conseil municipal, mettre ça à l'ordre du jour, faire voter le conseil municipal, qui est-ce qu'on parraine, et puis après le maire, soit il suit le conseil, soit il choisit sa personne, et ça vous éviterait d'éventuels reproches d'administrés peut-être.
Merci pour votre question, Alain. Sophie Rigaud, vous seriez prête à faire voter vos administrés?
En fait, je vais être très franche, je pense que la décision qu'on prend, qui est un parrainage personnel, quelle que soit la façon de procéder, on pourrait être soumis à la critique. Moi, je pense que c'est une décision personnelle.
Vous avez donné le vôtre déjà?
Je le donnerai. Voilà, moi j'ai déjà fait mon choix et je parrainerai Valérie Pécresse. Mais après c'est mon choix. Je respecte ceux qui n'auront pas le même. En tout cas moi je me sens assez à l'aise pour pouvoir prendre cette décision
de façon personnelle.
Exactement.
Nathalie Niaison, comment il faut choisir ou pas choisir d'ailleurs? Certains maires refusent de choisir.
Alors écoutez, moi je ne suis encartée dans aucun parti politique, pour autant je vais donner mon parrainage à Emmanuel Macron. Alors je n'en ai pas parlé avec mon conseil municipal, mais j'en ai parlé avec mes colistiers, les gens avec qui j'ai fait campagne dans mon équipe, en essayant d'apporter les arguments pour lesquels j'avais l'intention de donner ce parrainage. Donc moi je suis très claire là-dessus et je suis totalement transparente sur le fait que l'on puisse parrainer de manière transparente, sans se cacher derrière son petit doigt, un candidat à la présidentielle.
Alors, on l'a vu, depuis le mois de juillet, il y a eu 300 plaintes d'élus agressés, notamment sur la question du pass sanitaire et vaccinal. Il y a aussi des violences physiques et verbales qui ont augmenté de 47% l'an dernier par rapport à 2020. Est-ce que, Sophie Rigaud, c'est quelque chose que vous constatez aussi en tant que maire ?
Oui, bien sûr, on sent quand même beaucoup plus d'agressivité, une perte de repères, et puis je pense que la crise Covid a renforcé tout ça. C'est forcément très inquiétant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se pose la question, et moi j'ai quand même cette crainte, ce qui ne m'empêche pas de continuer à aller au contact avec et la même envie et la même énergie.
Mais vous avez été confronté à des situations un peu tendues comme ça ?
Bien sûr, des menaces, des violences verbales. Heureusement, pas de violences physiques. On a fait une enquête au niveau de la région Île-de-France avec l'association des maires d'Île-de-France l'année dernière. 70% des élus interrogés ont subi des violences verbales ou des menaces. Donc il y a vraiment des propositions portées aujourd'hui pour mieux informer les élus, travailler avec le gouvernement justement pour faciliter les dépôts de plaintes, accompagner les élus victimes, raccourcir les délais de jugement aussi des auteurs de ces violences, parce que on aura beau renforcer le pouvoir de police du maire, si tant est qu'on ait la capacité à le faire respecter, il faudra quand même qu'à un moment on montre qu'il doit y avoir une sanction et qu'on ne peut pas s'attaquer à des représentants publics de façon comme ça aussi tranquille.
Oui. Enfin, c'est très inquiétant. Il y a eu des condamnations assez rapides récemment concernant des menaces de mort. Nathalie Niaison, est-ce que vous aussi vous constatez que la situation, l'ambiance, elle se tend vis-à-vis de vous et des élus, y compris locaux ?
Bon alors, fort heureusement, moi personnellement, je n'ai encore jamais subi ce genre de violence ou de menace.
Tant mieux.
Mais j'ai l'habitude de dire que nous, les maires, nous sommes là pour défendre l'intérêt général. Et l'intérêt général, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers. Donc, nous sommes confrontés aux intérêts particuliers de nos concitoyens. Donc, cela nous expose à des choses qui peuvent être violentes, qui peuvent être très agressives. Donc, ce qui est très important, c'est que l'on ait à nos côtés les forces de sécurité, les forces de police, de gendarmerie, la préfecture et la justice pour nous accompagner dans notre mission, comme quand nous sommes exposés.
Alors, question très rapide de Fabienne sur l'abstention qui nous demande si les élections sont légitimes quand le taux de participation est en dessous de 50%. Pouvez-vous inciter les électeurs à voter ? Sophie Rigaud, est-ce que ça fait partie de votre rôle aussi ?
Oh oui, bien sûr. Je pense que c'est extrêmement important. Personne n'a envie d'être élu avec une participation faible, bien évidemment. Donc, c'est notre rôle de rappeler aux habitants de s'inscrire sur les listes électorales quand ils peuvent le faire, de leur dire qu'ils ont le choix, véritablement. C'est-à-dire qu'ils ont un droit, mais c'est presque un devoir pour moi, de pouvoir s'exprimer et de faire entendre sa voix.
Merci beaucoup Sophie Rigaud, maire LR de Saint-Michel-sur-Orge en région parisienne. Nathalie Niaison, maire d'hiver gauche de Bourg-de-Péage dans la Drôme. Merci de nous avoir répondu sur France Inter.
Merci.
France
beaucoup.
Inter, le 13-14.
13h43, à venir sur Inter, le feuilleton, une semaine dans la vie d'un médecin légiste où l'on se heurte aux limites posées à ces experts indispensables à la justice. Un peu après, le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Marion.
L'histoire est un ouvrage classique pour comprendre les conflits jusqu'à celui qui menace aujourd'hui la frontière ukrainienne.
Oui, il n'y a pas de siècle sans guerre, de la guerre de Clausewitz.
Rendez-vous autour de 13h55, mais tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Marion.
À votre micro, aujourd'hui l'actrice Christine Citti qu'on peut voir en ce moment au théâtre du Rond-Point à Paris dans la pièce « Il n'avait pas prévu que nous allions gagner ».
Une pièce qu'elle a écrite elle-même. C'est l'histoire, la sienne, d'une comédienne qui débarque dans un foyer d'accueil d'urgence pour mineurs et pour faire avec eux du théâtre, des ados d'un côté, des éducateurs de l'autre, Devika Bossé. Et c'est d'une chanson d'Angèle que Christine Citti a choisi de me parler, un extrait de son premier album. C'est le tube, balance ton quoi.
J'ai choisi cette chanson, d'abord parce que je l'aime bien, et puis que je trouve ça formidable que les jeunes qui écoutent du hip-hop ou du rap ou de la musique d'aujourd'hui entendent une parole, disons, féministe. Pour moi, c'est pas du tout un gros mot, féministe. Hein. Je suis féministe. Et après, il y a plein de rappeurs et de gens qui font du hip-hop qui sont pas sexistes, etc., etc. Mais peut-être qu'il y a un petit message qui rentre dans le cerveau. Des mecs qui n'ont pas encore bien tout compris.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Pas les te faire en mmh. Moi je passerai pas à la radio parce que mes mots sont pas très beaux.
Balance ton quoi, Frédéric, c'est donc une référence au mouvement Balance ton porc.
Mouvement encourageant la libération de la parole des femmes victimes de sexisme et d'agressions sexuelles. On le connaît aussi sous le hashtag MeToo. D'ailleurs, Christine, si tu préfères cette expression-là.
J'ai une tendresse et une passion pour les jeunes femmes qui ont l'âge de mes filles, qui reprennent un peu le flambeau et qui, grâce justement aux anciennes aussi, et puis grâce à MeToo, se laissent moins faire, laissent pas passer les choses, même dans les paroles, dans les blagues et tout. Et en fait, je les admire et elles m'apprennent des choses. Et Angèle en fait partie, finalement.
Les gens me disent de mes mots, pour une fille belle, t'es pas si bête, pour une fille drôle, t'es pas si laide, tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, aller te faire en mmh.
Je serai plus là pour voir, mais je pense que dans les livres d'histoire, il y aura cette période-là de MeToo, que c'est un vrai changement dans la société. Alors après, pourquoi il n'y a pas plus d'actrices qui ont parlé? On entend quand même encore beaucoup de saloperies et de conneries sur les femmes qui osent parler. Il faut encore aujourd'hui être très courageuse pour parler. Moi, j'ai fait un MeToo inceste en prévenant mes enfants avant, voilà. Mais c'est vrai que j'irai pas plus loin, même si là, maintenant, j'en parle. Parce qu'il y a des gens qui sont blessés de ça aussi, dans ma famille, dans mes proches et tout. Et que c'est très dur de parler. Moi, ça a été très dur, très, 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 très dur de parler. Parce qu'en fait, on se rend compte que on protège la personne qui nous a fait du mal. Enfin, c'est loin d'être gagné, et la violence faite aux enfants, et la violence faite aux femmes. Par exemple, je peux plus discuter avec des gens qui me disent « Oui, mais alors on peut plus rien faire. » Bah si, si tu veux me draguer, tu peux me draguer, mais t'es pas obligé de me violer, quoi. Voilà, donc cette chanson, c'est un choix pas si anodin que ça.
C'est une chanson que vous écoutez beaucoup?
C'est une chanson que j'ai écoutée. Et puis en fait, j'ai deux petites filles qui ont 8 ans et 5 ans, et qui l'écoute beaucoup, donc je l'écoute avec elle et j'adore voir ces deux petites filles, bon, tellement jolies évidemment, tellement intelligentes et tellement drôles, chanter cette chanson à tue-tête. Je trouve que ça donne de l'espoir pour les générations à venir.
Elles savent ce qu'elles chantent.
Elles savent ce qu'elles chantent. Ah oui, elles savent très bien ce qu'elles chantent.
Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi.
Ah, Angèle, c'était donc Frédéric, le choix de la comédienne Christine City.
Actuellement sur la scène du théâtre du Rond-Point à Paris, dans sa pièce, il n'avait pas prévu que nous allions gagner, mise en scène, Jean-Louis Martinelli.
Merci Frédéric, à la semaine prochaine.
À lundi.
Et on en parlait dans le journal, on apprend à l'instant que les épreuves de spécialité du bac qui devaient avoir lieu à la mi-mars seront reportées à la mi-mai pour cause d'épidémie de Covid. 13h49 sur Inter, l'heure de notre feuilleton. Une semaine dans la vie d'un médecin légiste, le docteur Iquet, 39 ans, de l'unité médico-judiciaire de Pau. On a découvert cette semaine que les légistes n'examinaient pas que les morts. Autre grand enseignement de ce feuilleton, l'utilité cruciale du légiste, rouage déterminant pour la justice. La procureure de Pau regrette toutefois les limites des unités médico-légales. Seules quelques-unes ont le droit de pratiquer les autopsies au risque de ralentir la justice. Feuilleton signé Mathilde Vinceneux.
Mesdames, donc ici on est dans le secrétariat, donc c'est vraiment le poste clé. Nous avons quatre agents médico-administratifs. Donc vous avez ici la réception de toutes les sollicitations des officiers de police judiciaire. Donc c'est nos collègues qui vont recevoir les appels, évaluer aussi le degré d'urgence et qui vont programmer l'activité.
Le tableau qu'on voit sur l'écran, c'est toutes les personnes que... tous les dossiers que vous avez...
Alors, ça, c'est le tableau des statistiques affinées, où effectivement, toute l'activité est tracée. Si on regarde un petit peu l'activité que l'on a gérée sur l'année 2021, nous avons traité, puisque c'est un sujet qui est assez d'actualité en ce moment, 540 dossiers de violences conjugales et 300 dossiers de violences sexuelles, que ce soit des faits de viol ou d'agression sexuelle.
Il y a une hausse de ces...
Alors il y a une hausse, c'est la grande question. Nous, pendant les premières phases de confinement, effectivement, on a vu des dossiers de violences conjugales, on en a vu beaucoup, mais quand on reprend l'analyse statistique, en fait, il n'y en a pas eu plus que d'habitude. Cependant, on a vu des dossiers de violences plus graves, avec des gros tableaux traumatiques, des traumas crâniens, des fractures de vertèbres. Donc, ces phases de confinement ont possiblement exacerbé le niveau de violence.
En fait, ce service, c'est un peu un miroir aussi de ce qui se passe quand la tension monte dans la société, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Je pense que les unités médico-judiciaires, ce sont des vraies loupes sur la société. Après, ce qui est difficile, c'est aujourd'hui le niveau de sollicitation que l'on a dans ces unités. Moi, quand je suis arrivé ici à 3 ans, le service faisait à peu près 6 à 700 actes par an. Et là, on va clôturer l'année à 3100, 3200 actes à peu près. L'activité a explosé. Par contre, les ressources humaines sont toujours les mêmes.
Si les sollicitations ont explosé, comme le dit le docteur Iquet, c'est parce que le médecin légiste est de plus en plus sollicité pendant les enquêtes. Et ce, dès la garde à vue, il est un rouage déterminant pour la justice, selon la procureure de Pau, Cécile Jansac.
Alors c'est déterminant parce qu'aujourd'hui, la justice pénale, c'est la justice plus que jamais de la preuve. Avoir la constatation médico-légale, c'est préconstituer des preuves. Et pour ça, il faut des gens qui soient formés à l'enjeu judiciaire du versant médical. Et c'est déterminant parce qu'aujourd'hui, on est de plus en plus saisi de plaintes pour violence, pour agression sexuelle, pour viol. C'est un contentieux qui déborde aujourd'hui dans nos tribunaux. Et à ce titre, si on n'avait pas l'UMJ, je ne sais même plus aujourd'hui comment on ferait pour avoir une réponse sur des faits juridiquement traités avec qualité.
Un petit bémol, peut-être, à cette UMJ, c'est que vous ne pouvez pas aujourd'hui faire des autopsies à Pau.
Ah, ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, ce que vous venez d'évoquer. Quand on a besoin de faire une autopsie, qui est l'acte ultime hein, pour aller chercher des preuves, nous, à Pau, nous sommes obligés d'envoyer les personnes décédées à Toulouse. Ça veut dire que du coup, mon médecin légiste, de temps en temps, se déplace à Toulouse pour aller faire ça. Du coup, il est plus sur peau. Ça veut dire aussi que lorsque j'envoie un corps sur Toulouse, qui est débordé par rapport au nombre d'actes qu'il est censé faire, j'ai une famille qui attend le corps pour faire son deuil. Quand j'ai 4 jours d'attente, évidemment qu'à un moment donné, je vais faire un tri pour leur envoyer les cas qui me posent le plus de problèmes. Et je vais rester au niveau de l'examen de corps, donc externe, alors que je devrais recourir à l'autopsie. Ça, c'est un vrai risque judiciaire. Si on veut faire son travail correctement et qu'on ne veut pas passer à côté de causes qui pourraient être criminelles, on ne devrait pas devoir se censurer sur ce genre de choses.
Le quotidien d'un médecin légiste, feuilleton de Mathilde Vinceneux, réalisé par Lucie Lemarchand, à retrouver sur franceinter.fr.
France Inter. Le 13-14.
Le vif de l'histoire quand l'actualité éclaire, quand l'histoire éclaire l'actualité, c'est avec Jean Lebrun. Alors que la guerre des nerfs fait rage aux frontières de l'Ukraine, votre émission Intelligence Service, Jean, invite demain à lire Clausewitz, auteur d'un gros livre magistral de la guerre.
Rédigé il y a 2 siècles par un général prussien, et on en retient généralement une idée choc, la guerre, phénomène naturel de la vie en société, ne serait que la politique des États continuée par d'autres moyens. Alors la formule est d'apparence énigmatique, encore que, dans la circonstance présente, la Russie contre l'Ukraine, on voit bien qu'une invasion ne ferait que prolonger une politique de Poutine affichée depuis longtemps. Et en tout cas, la proposition inverse est limpide. Si par malheur, il n'y a pas de politique, la guerre est perdue d'avance. Si la leçon n'était pas entendue par les Américains et les Européens, hésitants, divisés, ben, ne seraient plus que les témoins de leur impuissance. Même si on entend refuser la guerre, il faut la penser. Alors ça, c'est pas du Clausewitz, c'est du Jean Jaurès.
Et Clausewitz survient, lui, quand une science de la guerre commence à se construire en Europe.
Il naît en Prusse en 1780. Les deux pays de notre continent les plus concernés alors par cette réflexion, c'est la France et justement la Prusse. En 1792-93, les Français prennent l'avantage, s'engageant en masse dans des armées de soldats citoyens et partant bientôt à la conquête de l'Europe. Jeune officier, Clausewitz sera même un moment leur prisonnier. Et c'est seulement en 1814-1815 qu'il tiendra sa revanche en participant à la campagne de France et en combattant à Waterloo.
Et revenu à Berlin après la victoire contre la France, Clausewitz a le temps d'écrire.
La direction de l'école de guerre de son pays lui laissant des loisirs, il les consacre à la rédaction de son maître ouvrage de la guerre. Image étonnante, Marion. Il installe son écritoire dans la chambre de sa femme, à qui il attache des sentiments sincères et une grande complicité intellectuelle. C'est elle qui publiera son livre après sa mort. De toute façon, Clausewitz était persuadé que le temps validerait ses hypothèses.
Et pourtant, la guerre change sans cesse.
Ben oui, il présente en effet la guerre comme un caméléon. En conséquence, il ne faut pas se mettre en situation de refaire paresseusement les combats d'avant. Ben, pour prendre encore un exemple issu de l'ex-espace soviétique, l'Arménie, l'an passé, a été écrasée en peu de semaines par un Azerbaïdjan beaucoup plus moderne, avec ses moyens mécaniques, ses drones de conception très récente. C'est au moment de la dissuasion nucléaire que la pensée de Clausewitz est apparue dans toute sa clarté. Dans les pays détenteurs de la bombe, c'est le choix du pouvoir qui est l'élément déterminant. C'est le président et lui seul qui déclenche le feu. Les généraux sont derrière. La guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. La théorie de Clausewitz met aussi en avant d'autres éléments. À la façon d'une trinité, a-t-on dit, car ils sont trois. Dans une guerre interviennent l'armée avec ses chefs, le gouvernement avec ses leaders. Le troisième élément, et non le moindre, c'est le peuple. L'expérience des années de la Révolution et de l'Empire avait convaincu Clausewitz que son engagement, l'engagement du peuple, change l'essence de la guerre qui, avec lui, devient patriotique.
Mais aujourd'hui, l'armée française est devenue professionnelle.
Oui, alors elle mène dans ses opérations extérieures des guerres que Clausewitz aurait dit séparé. C'est paradoxalement ce qui la rend si populaire chez les jeunes de la génération Z qui n'ont aucun souvenir du service militaire obligatoire. 80% de ces jeunes considéreraient l'armée comme notre institution la plus fiable, tandis que plus d'un tiers des adultes disent qu'elle serait plus efficace que les élus pour gérer les questions urgentes. Alors Clausewitz détestait cette confusion des rôles. La militarisation du politique à laquelle on commence à assister, c'est le prolongement d'une confusion dans le lexique. Poutine est capable de nous dire, s'il envahit une partie seulement de l'Ukraine, eh ben que c'est pas une guerre. Et les États-Unis et l'Union européenne seront tentés alors de parler seulement de crise. En revanche, la lutte contre la pandémie, par exemple, a pu nous être présentée comme une guerre. Faute de mots justes, tout système d'explication, celui de Clausewitz comme les autres, s'en trouve déréglé.
Jean Lebrun, merci à vous. Rendez-vous demain dans Intelligence Service sur Inter. Et c'est à quelle heure ?
18h et des poussières.
Mais avant ça, dans quelques minutes sur France Inter, c'est l'heure de la Terre au carré. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Marion.
C'est vendredi, c'est le club aujourd'hui.
Voilà, tous nos invités sont là pour parler jurassique, désert et jeux de plateau.
À tout de suite.